Dans un monde où tout doit toujours être à sa place, autant les choses que les personnes, j'ai longtemps été dans le moule en me laissant bercer par cette douce dictature de pensée organisée sans la remettre en question. J'étais là où il fallait que je sois, là où on voulait que je sois, qu'il s'agisse de la société ou de mes parents ou de qui que ce soit d'autre. Cela a duré si longtemps que même moi, en fait, j'ai fini par croire que j'étais à la place qui me correspondait. Que d'autres n'existaient pas, ou du moins qu'elles seraient pas aussi satisfaisantes que celles-là. Je faisais des études supérieures de droit après un parcours brillant au lycée. Je projetais de faire carrière en tant que prof de droit, ou pourquoi pas en tant qu'avocate ou magistrate. À vrai dire, je m'en fichais un peu. J'avais eu ma grand-mère au téléphone qui, une fois, m'avait dit qu'elle se voyait déjà m'acheter un costume Dior ou Chanel pour quand je serais dans l'une de ces trois professions. C'était son rêve à elle, elle qui n'avait pas fait d'études et qui avait travaillé toute sa vie. Elle m'avait dit, tu sais ma chérie, j'ai toujours su que tu irais loin et que tu nous rendrais tous fiers comme tu l'as toujours fait. Tu sais, avec toi, on se pose au moins jamais de questions. On sait que tu arriveras. Et c'est ce que j'ai intégré. Maintiens le rythme, poursuis le plus long possible, rends ta famille fière, donne une raison à ta grand-mère de t'acheter un costume Dior et ne fais jamais quoi que ce soit qui lui fasse, enfin qui leur fasse, se poser des questions sur ton avenir. Et toi non plus d'ailleurs. Moins tu t'interroges, mieux ça ira. Plus simple ce sera de suivre un chemin que tu sais toi-même n'avoir jamais aimé. Mais ne jamais avoir eu le cran de modifier, de peur de décevoir, de ne pas répondre aux attentes qu'on t'a fixées, et surtout que tu as fini par te fixer toi-même. Mais peut-être que si tu prétends assez longtemps savoir ce que tu veux faire de ta vie, un jour ça sera enfin vrai. Même si là, ça te rend juste triste. Si vous aussi vous êtes déjà posé ce genre de questions, ou qu'il vous arrive encore de vous les poser, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Summer Talk avec votre roulette préf, qui va prendre le temps de vous expliquer, de par sa petite expérience de 23 ans de vie, que non. Prétendre et se forcer à rentrer dans un moule qui ne vous rend pas heureux ou heureuse concernant votre avenir, c'est pas une issue viable, même si ça répond aux critères que la société attend de vous. Et peut-être que même, contre toute attente, celle de ne pas savoir ce que vous voulez faire de votre avenir peut s'avérer être une issue bien plus supportable et intéressante. Alors installez-vous confortablement ou au contraire partez pour une petite marche, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'imagine que pour ceux et celles me suivant également sur ma chaîne YouTube, vous devez très certainement faire un lien en fait entre cet épisode et ma dernière vidéo YouTube qui s'intitule « C'est quoi le sens de la vie quand on a la vingtaine ?». D'ailleurs, toutes les infos seront en description de l'épisode pour les curieux et curieuses qui voudraient compléter avec la vidéo YouTube. Honnêtement, si vous avez fait le lien, vous avez bien raison de le faire, parce que c'est loin d'être un hasard. Cette année, créativement, en fait, je souhaiterais, créativement parlant, oui, voilà, ça veut plus dire quelque chose. Créativement parlant, cette année, je souhaiterais apporter plus de cohérence, en fait, entre les contenus que je crée, selon la plateforme où ils sont, et ainsi aborder sous une forme et un spectre différent un même sujet, par exemple sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Parce qu'en fait, d'une plateforme à une autre, il ne s'agit pas de la même forme de liberté. Sur YouTube, par exemple, ça va vraiment être cet esprit de création pur et non contenu, fou sur les bords. Sur Insta et TikTok, ça va être une sorte de teasing tourné en courte poésie introspective, comme je le fais depuis longtemps maintenant et que vous appréciez bien, à mon grand plaisir. Et sur le podcast, en fait, c'est plus une sorte d'échange beaucoup plus développé, personnel et tranquille, en fait, autour de la thématique, précisément, en vous parlant, comme toujours, de mon expérience, de mes exemples, de mes leçons tirées et de mes conseils, si j'en ai. Alors, pourquoi ce sujet et cette affirmation aujourd'hui? Je sais pas quoi foutre de ma vie et c'est génial. Si j'écris de manière aussi crue ce titre, c'est parce qu'en gros, plus simple il est, plus il retransmet de manière authentique et crue ce qui se passe dans ma tête. Est-ce que c'est assez évident pour vous? C'est qu'en vrai, genre, il y a un petit fun fact. Faut savoir que dans la vie, je suis quelqu'un, si je me laisse parler, de très... Comment dire ça? Je dis gavé de gros mots. Mais genre vraiment, j'ai un penchant pour la vulgarité, mais assez phénoménal. Dans ma famille, on a toujours été très vulgaire. Alors pas vulgaire à sortir des trucs vraiment déplacés et pas dans ce sens-là. On va toujours lâcher des putains, merde, fais chier, des trucs comme ça. Et je sais que j'ai toujours du coup trouvé une forme genre assez percutante parfois dans l'utilisation de certaines phrases qui étaient très simples, avec des mots, on va dire, vulgaires ou très familiers du moins. C'est pour ça que le titre, en soi, j'aurais pu dire je sais pas quoi faire de ma vie, mais je trouvais ça beaucoup plus percutant de dire je sais pas quoi foutre de ma vie et c'est génial, parce que vous voyez, il y a tout dans ce mot-là, dans cette prononciation. C'est que je me suis retrouvée à un moment où je savais plus quoi foutre, parce que j'avais tellement la pression de tout autour de moi que c'était pas juste je sais pas quoi faire, c'était je sais plus quoi foutre, j'étais perdue. Et ce mot l'appuyait. Et au-delà de ça, pourquoi j'ai fait ce titre et pourquoi je fais cet épisode en fait aujourd'hui, c'est parce que on est encore donc en début d'année, on est littéralement sur le premier mois de janvier, on en est encore à la période des fameuses résolutions où tout le monde semble quoi faire donc pour 2024, semble savoir où aller exactement et je souhaitais apporter mon point de vue sur le sujet. Le but de cet épisode, c'est pas de vous sortir un espèce de discours antagoniste en mode oubliez tout ce que vous savez de votre vie et laissez-vous vous perdre parce que c'est trop bien d'être perdu. Pas du tout, genre, c'est pas ça l'objectif de l'épisode. Mais c'est juste de contrer un peu tous les discours qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux de personnes qui sont d'influenceurs loin d'être perdues et qui vont dire non mais guys, ça fait ça du bien de temps en temps de pas savoir où on va, ça permet de reconnecter avec les chakras. Je suis navrée, peut-être que j'attaque un peu de manière déloyale, mais je le pense, c'est pas des personnes perdues en mode, tu peux pas dire ça à des personnes pour qui littéralement ce serait tout risqué dans leur vie que d'assumer que ce qu'ils font à l'heure actuelle n'est pas satisfaisant et de prendre un chemin de vie totalement différent. Et c'est en cette raison que pour l'avoir vécu pour ne pas avoir réussi à le faire en fait au moment où moi ça s'est présenté, hein, où j'ai continué mes études justement parce que j'étais effrayée de les arrêter et de prendre une décision que je savais pertinente et me correspondant depuis des années. Voilà, moi je me suis dit justement c'était peut-être plus cool d'avoir le point de vue de quelqu'un qui littéralement a eu trop peur et y avait des raisons d'avoir peur, hein, et on va en parler dans cet épisode, pour changer, pour montrer que non, le changement c'est pas facile. Mais pour montrer qu'à l'heure actuelle, oui, s'il y a bien une chose que je reconnais, c'est que j'aurais gagné beaucoup de temps et beaucoup de paix avec moi-même si je m'étais rendu compte en fait que toute cette pression, elle était due à la société et que du coup je pouvais la dépasser, quand même c'est très difficile, plutôt que de me laisser enfermer en me disant non mais c'est comme ça, c'est pas moi Juliette qui vais faire changer les choses, donc autant s'y plier. Voilà, moi c'est le but de cet épisode. Donc en gros, comme je vous l'ai raconté dans l'introduction, et plusieurs fois d'ailleurs dans certaines de mes autres vidéos YouTube, j'ai personnellement suivi un parcours que j'appelle « classique » entre guillemets, d'études, sans trop me poser de questions. Alors que je savais en fait dès la sortie du bac que moi la seule chose qui me faisait vibrer depuis gamine, genre littéralement depuis que je sais parler, la fameuse phrase de « Since today I was able to talk », c'était vraiment ça, depuis que je suis petite et que je sais parler, ma passion ça a toujours été d'écrire des histoires, des scénarios, des pièces de théâtre, de les interpréter, de les réaliser, de les mettre en scène, de les monter, de les produire. Genre vraiment, j'étais comme, c'est-à-dire comme j'imagine bien d'autres enfants, cette gamine, vous voyez, à 5 ans, les parents, ils veulent juste faire un repas avec leurs meilleurs potes et leurs gosses qui ont votre âge, et genre à 23h, quand tous les darons étaient pétés à l'alcool, moi je ramenais tous les gosses, je leur faisais faire une pièce de théâtre en 10 minutes éclatée au sol, mais qui pour moi était juste incroyablissime, qui d'ailleurs l'était, hein, dans mes souvenirs, elle l'est toujours. On les regroupait tous, et je vous jure qu'ils regardaient notre pièce de théâtre pendant 10 minutes, et c'était un fiasco, mais c'était incroyable. J'étais ce genre de gosse-là. Et c'est pas du tout dans un but vantard hein, que je raconte cette anecdote, mais juste pour dire que moi, ma vérité sur ce qui m'anime, je l'ai depuis que je suis gamine. Et je sais que ça, c'est une chance assez incroyable parce que, voilà, encore une fois, comme je l'abordais dans ma vidéo YouTube, sous un autre aspect, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire avant très 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 longtemps. Parfois, il n'y a même pas de réponse à avoir. Je sais que moi, j'ai une de mes meilleures potes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elora. Elora, si tu écoutes ce podcast, gros bisous, ma love. Une fois, on avait discuté et voilà, je parlais de mon amour pour le théâtre. Et elle m'avait dit, mais meuf, genre, je trouve ça assez fou que t'aies toujours eu cette passion. Parce qu'elle dit, moi, j'en ai pas. Genre, elle a de l'amour pour beaucoup de choses, par exemple pour sa mif, pour sa religion, etc. Mais elle me dit, j'ai pas de passion, je sais pas, danse, chant, ceci, cela. Et je lui dis, mais c'est pas grave. Genre, juste, moi j'ai ma passion, ça va faire un peu âme torturée, mais je ne l'ai pas choisie. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, limite, ma passion, pareil, je vais le développer après, je l'ai un peu plus vécu comme une malédiction parce que comme c'est entre guillemets une passion qui n'est pas évidente à faire en termes de vie de tous les jours et notamment de métier, voilà, de l'art, la création, etc., je subissais de me dire mais je sais ce que je veux faire, mais le problème c'est que professionnellement parlant, il n'y a rien d'aussi incertain que ma passion et que ce milieu de manière générale pour voir plein de gens dedans. Donc il y avait un peu ces deux côtés. Mais tout ça pour dire, moi, je sais ce que je veux faire depuis que je suis petite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la sortie du bac, Quand j'ai choisi de faire des études supérieures, en fait, en droit, c'était déjà à l'époque, j'étais déjà au courant que je me trahissais, en fait. J'étais déjà au courant de ce qui m'animait, de ce que je voulais faire plus tard. Voilà, quand on me disait, mais qu'est-ce que tu dois faire toute ta vie? D'ailleurs, question très conne, hein, entre nous. Il n'y a pas une chose que tu es obligé de faire toute ta vie. Je te jure que tu peux changer 1000 fois de métier si tu en as envie. Ça pour dire que je savais ce que je voulais faire. Mais le problème, c'est que je savais également que je pouvais pas partir en fait dans ces études. Parce que, genre, déjà, le théâtre à l'époque, la création de manière générale, enfin, c'était toujours le cas dans l'inconscient collectif. Et c'était le cas non seulement dans l'inconscient collectif et aussi dans l'inconscient, dans mon inconscient familial. C'est que tout le monde considérait que c'était une jolie passion. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ma famille, pour eux, c'était une passion que j'avais, dans laquelle j'étais. Voilà, j'avais un bon niveau, mais c'était pas plus qu'une passion. Ma mère, ça a été toujours la seule personne à potentiellement. Enfin, elle m'a toujours extrêmement soutenue, à me dire, mais si tu veux, vas-y, fonce et tout. Mais voilà, quand on a toute notre mif qui nous dit, oui, c'est très sympathique comme passion, du coup, tu vas faire quoi comme vrai métier par contre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une distance qui se crée. Et c'est pour ça que même si j'étais au courant de ce que je voulais faire, je savais que c'était pas genre normal, vous voyez, comme poursuite d'études. Je savais que c'était pas sérieux, puisque voilà, c'est ce que j'avais entendu toute ma vie par ma famille et voilà, par la société. Quand on dit rien que le nom intermittent du spectacle, faut voir comment les gens le prononcent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on imagine des troubadours, là, le casse la vie d'artiste, quoi. Genre, ça va, non, 2 secondes. Et du coup, voilà, je me souviens que je prends cette décision de faire du droit et je vais pas non plus pleurer dans les chaumières parce que, comme je vous dis, genre, j'ai des parents, là je parle vraiment de mon père et de ma mère, qui ont toujours été. Là, je vais faire trop la meuf alors que littéralement, je pense que c'est pas si compliqué. Mais en anglais, c'est supportive, genre supporter, supportif. J'ai toujours été. J'ai toujours eu des parents qui m'encourageaient de ouf dans mes projets et qui ont jamais, genre, on va dire, décrédibiliser profondément la chose, mais qui était tellement effrayé par l'incertitude de vie que ça offrait d'être intermittent du spectacle. Parce que voilà, comme vous le savez, c'est pas un métier où il y a une garantie assez ouf, en fait. Littéralement, le chômage d'intermittent du spectacle est prévu pour anticiper cette incertitude de vie qu'il y a. C'est-à-dire que si vous n'avez pas tout le temps du taf, le chômage d'intermittent du spectacle vous permet d'être payé toujours un SMIC par mois. Si vous avez fait un quota d'heures suffisant dans l'année pour obtenir ce chômage. Mais bref, c'est vraiment un milieu qui pue niveau stabilité, vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, ça fait partie du jeu, quoi, ça fait partie de ce monde-là. Et le truc, c'est que voilà, moi, mes parents étaient tellement effrayés que je choisisse ce plan de vie et que du coup, je subisse cette instabilité qui m'ont toujours plus ou moins incité d'abord à assurer mes arrières et ensuite à faire ce que j'avais envie de faire une fois que j'aurai ce bagage. Genre vraiment, je vous jure qu'il n'y a pas un mot que j'ai plus entendu que ma mère ou mon père ou ma mif, assure-toi un bagage universitaire. Et après, tu feras ce que tu veux. Genre, le bagage universitaire, je l'ai eu en boucle et en boucle et en boucle dans mon cerveau. Et honnêtement, quand j'étais en droit et que je rencontrais des gens qui me disaient « Ouais, toi, tu fais quoi ?» et tout. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, je suis navrée. Je disais genre « Ouais, je fais du droit. Ah ouais, pourquoi ?» Pour m'assurer un bagage universitaire. C'était même pas « Je fais mes études. » C'est genre « C'est un bagage universitaire. » C'est vraiment un backpack au cas où si je tombe, il y a quelque chose qui m'amortisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et honnêtement, je comprends pourquoi mes parents m'ont donné ce conseil, parce que quand on voit le monde dans lequel on vit, surtout le monde du marché du travail français, où maintenant, même avec un bac plus 5 en droit, enfin, dans des études, vous voyez, qui se veulent générales et assez élitistes, entre gros guillemets, ça veut plus rien dire à l'heure actuelle, genre, même avec ça, il y a des gens qui galèrent à trouver des tafs. En vrai, ça donne envie de pleurer. Donc tu te dis, si avec ça tu galères, sans ça, en fait. C'est quoi? C'est de la survie que tu fais? Et c'est en ce sens que j'entendais à l'époque le discours de mes parents qui étaient effrayés de ça. Parce que eux, ils voyaient, ils me disaient, mais si t'as même pas ça, alors que c'est déjà la merde avec, tu vas faire comment? Et le truc, en fait, c'est qu'encore une fois, du coup, on finit par se plier au système. Faute de se dire, je pourrais pas le changer, on se dit, bon, bah, je vais le subir comme il l'est. Et c'est vrai que moi, ça a indéniablement conditionné chez moi très jeune, en fait, cet impératif de sûreté. Genre vraiment, le mantra, c'était toujours assurer en premier mes arrières pour ne jamais être surprise. Après, je m'amuse. Après, je peux passer au moins sérieux. Et en fait, c'est bien ça le problème. C'est que dans ma tête, j'ai ratatiné ce qui m'animait depuis toujours à du secondaire, à de l'amusement, à du pas sérieux, à du pas viable à terme. Et c'est très violent, en fait, de contenir, de restreindre, voire de décrédibiliser soi-même la chose qui nous donne goût à la vie, de l'espoir et une forme de sens, quelque part. Quand on sait en plus à quel point, à 20 ans, le sens de la vie, ça ne veut rien dire. Ce que j'atteste de triste, en fait, avec du recul maintenant, c'est que cette pression sociétale et sociale oblige à se plier, en fait, à un carcan qui ne nous plaît pas, et que c'est quelque chose qu'on fait, malheureusement, trop naturellement, pour beaucoup d'entre nous. Se dire, bon, tant pis, plus tard, on verra. Sauf que plus tard, au final, on se dit, bof, en vrai, je suis déjà dedans, j'ai un peu plus de sûreté là où je suis... Peut-être pas tout niquer pour faire un truc que je sais pas, enfin ça va donner quoi. Et le truc assez vicieux en fait avec tout ce gloubi-boulga, c'est que ça te rendra plus triste que jamais au final. Et que tu t'en voudras, un, de pas être honnête avec ce que crie ton cœur, entre guillemets, mais aussi, du coup, et indéniablement, de ne pas être plus investi ou bien investi dans le chemin plus sûr, entre guillemets, de substitution que tu as choisi. C'est-à-dire que, en reprenant mon exemple, non sans trop l'appuyer, parce que vraiment, quand je vous dis, j'ai fait plein de vidéos YouTube dessus, des vidéos sur le droit, sur mon ressenti pendant mes études. Je vous invite aussi à voir ma FAQ 2023, où je réitère un peu tout le truc du parcours, de ce que ça m'a fait ressentir, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement et simplement, sur la phrase que je viens d'énoncer, moi j'avais ce dilemme droit-théâtre dans ma tête. Je pouvais pas faire de théâtre, donc j'étais triste parce que je savais que c'était ce que je voulais faire de manière générale, mais de l'autre côté, le chemin de, voilà, encore une fois, de substitution que j'avais pris, donc de mes études de droit, du coup j'étais pas capable de l'assumer pleinement parce que ça ne faisait pas de sens et parce que, en fait, je m'en foutais. C'était même pas une question de sens on va dire concret. Enfin, si, justement, concrètement ça ne faisait pas de sens. Métaphoriquement, oui, on peut dire les études t'apportent toujours du sens dans ta vie, mais juste concrètement je savais pas ce que je foutais là. J'avais même pas le syndrome d'être une impostrice, le syndrome, vous savez, de l'imposteur. C'est que pour moi, j'avais l'impression d'être dans une simulation, j'ai l'impression d'être dans un prank permanent, mais de moi à moi, hein. Encore une fois, je voyais les profs parler, et vous voyez, je les regardais parler aux autres élèves, et les élèves acquiescer, être dedans, parler de « ah ouais, putain, c'est dingue que telle loi soit passée », et j'avais l'impression de regarder un film. Premier degré, j'ai passé 5 ans, vraiment, hein, de mes études de droit, à avoir l'impression de regarder un film qui se passait autour de moi. Comme si je regardais des figurants et je me disais genre, putain, c'est rigolo. Enfin, non, justement, c'était moi la figurante. Comme si j'ai eu l'impression de regarder des persos principaux et de me dire, toi, c'est rigolo, ah ouais, ils kiffent comme ça et tout, c'est trop bien. Alors que moi, j'étais dans l'amphi. Mais moi, j'avais l'impression d'être spectatrice d'un truc. Et 5 ans à être spectatrice d'un truc, c'est long quand même. Ce qui faisait que d'ailleurs j'ai eu une scolarité en droit jusqu'au master, là ça a changé, mais j'ai eu une scolarité en droit qui était très médiocre, hein. Médiocre dans le sens, j'avais la moyenne, pas plus, parce que j'en foutais pas plus, parce que j'en avais rien à faire. Je bossais le minimum syndical pour passer. Quand j'ai le minimum syndical, on s'entend en droit, je bossais parfois comme une connasse, mais ce que je veux dire, c'est que je me tuais pas à la tâche. Après, en master, c'était beaucoup plus visé, on était beaucoup moins... c'était plus tranquille, il y avait moins à prouver et tout. Donc du coup, j'ai eu des meilleures notes. Mais voilà quoi, j'étais pas investie dedans. Donc du coup, forcément, ça faisait pas de sens pour moi. Donc du coup, forcément, j'avais pas des super notes. J'avais pas d'intérêt, j'avais pas d'ambition. On me disait, ouais, tu feras quoi plus tard? Il y a des gens qui me disent, moi je vais faire juge des enfants. Moi je vais faire ça, 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 si c'est ça. Je vais faire telle formation, puis en plus je vais faire ça. Puis ensuite je vais faire une alternance, puis en plus... Moi, je suis en mode, je sais pas, prof, avocate, magistrat, je sais pas. Genre vraiment les trois parcours typiques du droit, quoi. Alors que c'est vraiment un champ d'études qui vous permet tellement de métiers que vous n'imaginez même pas. Mais voilà, quoi, parce que j'étais pas renseignée non plus. J'avais des potes qui avaient fait des salons de l'étudiant, là, pour voir les débouchés qu'il pouvait y avoir, des conférences, qui avaient lu des livres et tout, qui s'étaient renseignés sur Internet. Moi, rien de tout ça, parce que je savais quelque part que c'était juste pour m'assurer mes arrières, mais que j'avais toujours pas de projet, en fait. Genre vraiment, moi, dans ma tête, j'étais en mode, ouais, je sais que là, j'apprends des choses intéressantes, je peux pas dire le contraire, mais intérieurement, j'étais tout le temps en train de bouillir et de me dire, mais je m'en carre, vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en carre Alors qu'au même temps, j'étais intéressée par les choses que j'apprenais. Mais juste quand on me demandait, voilà, sur le long terme, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir en faire? Rien. Je m'en fous. Rien du tout. Mais en fait, le truc qui explique aussi que pendant longtemps, je n'ai pas... Enfin, jusqu'à littéralement la fin de mes études. Hein. En soi, j'aurais très bien pu arrêter la L3 parce que le deal, c'était ça, c'était une L3. Parce qu'en gros, si vous voulez, avec une licence 3, vous pouvez avoir accès à plein de concours dans la fonction publique, que ce soit dans gendarmerie, douane, police, etc. Et même plein d'autres. C'est déjà en soi un bagage d'études sup qui est pas mal. Surtout, encore une fois, dans la branche à laquelle j'étais en droit. Une L3, en gros, c'était suffisant. Et en soi, si j'étais encore une fois à ce moment-là à l'aise dans mes baskets, si j'avais été à l'aise dans mes baskets, moi, le deal avec mes parents était coché, quand même, il n'y en avait jamais eu un au-dessus de ma tête. Hein. Mes parents, après, m'avaient toujours dit, bah, après, c'est ta vie, en fait, t'es libre de ce que tu veux. Ils m'avaient juste donné ce conseil de assure tes arrières. Mais du coup, on va dire tacitement, dans le contrat social, moi, j'avais rempli mon deal avec mes parents. Mais le truc aussi, c'est qu'on m'avait tellement foutu la paix à partir du moment où j'avais commencé ces études supérieures. Parce que c'était pas n'importe quelles études. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, je ne dis jamais ça en mode, non, les études de droit sont au-dessus de tout. Je trouve ça débile, les trucs empiriques, là, d'études. Enfin, en mode, ouais, ça, c'est mieux que ça, parce que si... Non. Mais juste, encore une fois, dans l'inconscient collectif, ça l'est. Des études de droit, les gens ils vont dire « Oh putain, wow, tu fais oh master droit, oh wow. » Alors qu'en soi, il y a des études qui sont bien plus compliquées. Enfin, voilà, on n'est pas là pour faire une compète. Mais ce que je veux dire, c'est que on m'avait tellement foutu la paix quand je faisais ces études. On me foutait tellement la paix. Il n'y avait personne qui venait m'embêter. Vous voyez, parce que genre, c'était pas en mode « Ouais, Juliette, franchement, tu pourrais faire plus, ou tu pourrais faire ci, ou tu pourrais faire ça à côté, parce que, mais oui, mais elle fait des études de droit, tu sais, elle bosse et tout. » Et en fait, genre, je me disais, la paix est tellement accessible en ne posant pas de questions, en ne faisant pas de grabuge, juste en faisant des études qui socialement passent, qui familialement, je sais pas si ça se dit, passent. Et c'est en fait quand on se met dans la tête que la paix est plus facile parce que personne va nous embêter, c'est là que ça devient triste. Parce qu'au lieu de se dire, bah, on va dire merde aux autres et assumer notre propre paix à nous, on préfère dire amen aux autres, quitte à sacrifier notre paix pour nous. Parce que j'avais la paix juste que personne vienne dans mon quotidien m'embêter. Contrairement à des amis que je voyais autour de moi qui, juste parce qu'elles n'avaient pas choisi les études que la société et leurs parents voulaient, mais leurs parents, ils étaient H24 sur leur dos, au moindre écart, à la moindre mauvaise note. Si par malheur, elles venaient à redoubler, bah, c'était des branleuses et enfin, ils les lâchaient pas. C'était limite, ils n'allaient pas les menacer de bah, non, tu payes toute seule, je savais que c'était pas un bon parcours d'études pour toi. Donc voilà, moi j'avais cette tranquillité de vie à ce moment-là et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de l'arrêter. Honnêtement, j'ai pas envie de l'arrêter. C'est trop simple en fait. Genre, j'avais l'impression de trouver un cheat code à l'époque, sauf qu'en fait, le cheat code, c'était pas moi qui servait en fait au final. Il me desservait plus qu'autre chose. Mais encore une fois, ça, je vais le comprendre plus tard. Et c'est pour ça que j'ai poussé Master 1 et ensuite Master 2. Et le truc, c'est que il y a un moment où j'étais quasi résolue que j'allais finir ma vie dans le droit, parce que en plus, voilà, quand je vous dis, t'as ta grand-mère qui t'appelle, les larmes aux yeux, ma chérie, hâte de t'acheter ton costume pour que tu sois professeur, genre, tu te mets une espèce de mission là, de sauveur dans la tête en mode, ouais, honnêtement, je lui dois ça, tu vois, ma grand-mère, elle a tout sacrifié, c'est une dame qui a toujours énormément travaillé et tout, genre, tu sais, ouais, limite, tu te dis, je lui dois. Et à mon autre grand-mère aussi, c'était une fierté. Elle m'a hébergée en plus pendant mes études supérieures. Donc il y avait aussi un petit côté de, tu sais, je lui rends la pareille quelque part, alors que pas du tout. Et ce qui a commencé à m'ouvrir les yeux, bien évidemment, ça a été de faire en parallèle du théâtre et mes vidéos YouTube. C'est-à-dire que dès la L2, je crois que j'ai passé toute la L1 à pleurer et à faire des burn-out sur burn-out en appelant ma mère, en pleurant. C'était la seule personne à qui je confiais un peu, à qui je ne mentais pas sur mes études. Et voilà, et ma mère, elle me disait tout le temps, mais j'ai fait du théâtre, ma chérie, genre, pourquoi tu t'infliges ça? Et en L2, j'avais déjà commencé à sortir la tête de l'eau parce que de 1, j'avais commencé le théâtre au conservatoire de Bordeaux. Et pareil, genre, tu sais, ma mif, quand je dis que je faisais du théâtre au conservatoire, ah, oh, ah, hi, parce qu'il y a une sélection pour y entrer et tout, genre, c'est un truc, passe des épreuves d'entrée, tout ça, tout ça. Donc c'était, ah, waouh, Puis en plus, pour le droit, c'est hyper important de savoir faire du théâtre, parce que le théâtre, enfin, le droit, c'est un peu du théâtre, ha, ha, ha. Donc, ça collait, en fait. Encore une fois, j'arrivais trop à des subterfuges pour faire ce que je voulais et que ce soit socialement accepté. C'était en mode, ça me prenait que entre 3 et 5 heures par semaine, donc ça va, ça empiétait pas sur mes cours de droit. Sauf qu'en fait, ce qu'ils savaient pas, c'était qu'à l'époque, on avait souvent des petits trucs à créer à côté, ou avec les copains, on se faisait des petites pièces. Et en fait, en soi, oui, j'allais au conservatoire entre 3 et 5 heures par semaine, mais après, je passais mes journées à écrire des scénarios, à écrire des trucs qu'on pourrait jouer avec les copains, à présenter aux profs et tout. Donc ça m'a permis à l'époque, encore une fois, dans les sillons, de trouver ouais, un subterfuge, je ne vais pas me lasser de ce mot, pour sortir la tête de l'eau. Et puis, surtout la même année, je lance ma chaîne YouTube, où là, je touche donc plus à ce côté vidéo, parce que forcément, pour le but de l'art, c'est qu'il soit partagé. Si vous faites de l'art pour vous-même, il va y avoir un côté apaisant dans le côté manuel, dans le côté réalisation, mais à terme, l'objectif, selon moi du moins, de l'art, c'est d'être partagé, c'est qu'il y ait des retours. Bon, pas bon, etc., on s'en fout. Le but, c'est de proposer quelque chose à quelqu'un et qu'il en fasse ce qu'il veut. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, l'idée YouTube, c'est que, pour moi, c'était pouvoir transmettre ce qu'il y avait dans ma tête, en termes de projet de création, à des personnes et qu'elles en fassent ce qu'elles voulaient. Ce qui était assez limité avec le théâtre, parce que bah, pour que théâtre se fasse, fallait que j'ai une scène, fallait que j'ai un public, donc que je rameute des gens. Dans la vraie vie, c'était bien plus complexe, alors que là, sur YouTube, en fait, je le balançais, et après, Internet faisait son travail, et les gens décidaient de regarder ou pas. Donc, entre guillemets, c'était bien plus simple. Surtout qu'à l'époque, moi, je faisais vraiment ça pour mes copains, la fameuse phrase, et j'avais pas du tout pour idée, enfin, je n'imaginais pas que ça puisse toucher d'autres personnes que mes potes. Et c'est vraiment ça qui m'a permis, toutes mes études, de tenir le coup, bien évidemment aussi. C'est qu'en plus d'avoir la paix parce que je faisais mes études, à côté, le fait est que je fasse du théâtre et YouTube, vraiment, ma mif, c'était en mode, c'est cool, c'est des petites passions mignonnes. Sauf que c'est vraiment ça qui m'a fait, comme je dis, tenir le bout, quoi, toute la fin de mes études. En plus, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, à savoir Méline et Lou, dont je parle très souvent, qui sont du coup venues là sur les deux derniers épisodes du podcast, que j'ai rencontrées via YouTube. Et rien que pour ça, d'ailleurs, je ne regretterai jamais, 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 au grand jamais, d'avoir commencé YouTube, peu importe comment ça se finit, je ne sais pas, mais parce que j'ai rencontré des personnes géniales. Et surtout, j'ai rencontré des personnes qui me comprenaient totalement sur ces questions d'être du père, et à la fois de savoir ce qu'on veut faire, ou du moins ce qu'on ne veut pas du tout faire, mais à quel point c'est difficile, voilà, de saisir son courage à deux mains et de dire merde au système. D'où l'épisode d'ailleurs avec May, je crois que c'est le dernier épisode là, avant celui-là, de je sais plus exactement le titre, mais comment faire pour se foutre de la vie des gens. C'était un peu dans ce mood-là, et elles m'ont fait beaucoup beaucoup de bien sur ces problématiques. Et tout ça pour dire, peu à peu, je vais commencer à avoir des retours positifs sur le travail que je vais faire de création, que ce soit sur YouTube, que ce soit à travers le théâtre. Là, j'ai vraiment des retours de personnes, c'est pas qu'ils me disent juste « Oh, c'est sympa ce que tu fais en passion », c'est qu'ils me disent « T'as vraiment un truc que t'apportes ». Et encore une fois, je le dis pas dans le sens « J'apporte trop quelque chose à l'humanité », mais c'est juste de personnes qui me disent c'est ça ta voix ». Ça se sent, en fait, ça se sait. C'est flagrant comme un nez au milieu de la figure quand tu fais ce que tu fais, que ce soit en théâtre ou sur YouTube, etc. Ça se voit que tu vibres pour ça et t'as vraiment quelque chose à faire. T'as vraiment des choses à créer et à partager. Et du coup, je commence à prendre de plus en plus d'aplomb sur ce que j'ai envie de faire ma vie plus tard, et surtout de crédibiliser de nouveau mon rêve et de pas juste me dire « ouais, c'est une passion ». Non, je me dis, ça fait du bien à des personnes. Enfin, je reçois des messages à des moments, même encore voilà, aujourd'hui, de personnes, c'est extrêmement touchant, c'est hautement touchant, voilà, qui m'expliquent en quoi mes vidéos ont pu les aider, ce qu'ils ont traversé. Et je me dis, c'est fou. Et il y a un moment où je l'entendais pas, ce discours, où j'étais très très heureuse, je disais merci, mais où ça me touchait pas profondément, parce que voilà, moi-même j'étais en mode non mais ça va, tu fais pas tant pour les gens en faisant tes vidéos. Et c'est quand j'ai commencé à prendre conscience que si, et que c'était même pas que le but, hein, le but c'était de, encore une fois, le partage, que je me suis dit mais c'est bon, cette fois je peux plus mentir, je peux plus me mentir, et je vais faire ça. Et c'est de cette décision, donc à la fin de mon master, parce que comme je disais, on m'avait proposé de faire une thèse. Bon, alors, quand je dis trop proposé, après, il aurait fallu que je fasse mon projet, que je passe un entretien et tout. Hein. Genre, on m'a proposé, ça voulait pas dire que j'allais forcément la faire. Ça reste quand même très compliqué de choper une thèse en France. Mais ce que je veux dire, c'est que mes profs me la proposent. Et c'est là, avec un jeu de circonstances, où, comme je l'ai pareil, je l'ai raconté plein de fois sur YouTube, et je vous renvoie à la fameuse vidéo FAQ 2023 que j'avais sortie le 5 mai pour mon anniversaire. J'étais en appel avec May, elle repartait avec Lou en Corée du Sud 2 mois, genre juste après ça. Et en gros, ça a fait tellement sens dans ma tête, je dis ok, j'arrête mes études, là c'est bon, je suis arrivée au bout. En fait, genre pour moi, là ce serait sacrifier l'opportunité de ce voyage que de partir en thèse pour quelque chose dont je me fous. Je sais même pas quel sujet faire parce que je m'en fous. Et donc là, je me suis dit, maintenant tu peux plus mentir. Tu peux plus te mentir à toi. Parce que je me suis vraiment regardée dans la vitre, enfin dans le miroir, et me suis dit, mais je m'en fous! Jusque-là, j'arrivais toujours à me mentir un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je me suis dit, mais 5 ans pour de thèse, 5-7 ans pour un truc dont je me carre, alors que littéralement, pour moi, là, le projet de voyage en Corée du Sud, mais c'était une des plus belles choses. Là, ça faisait du sens. Je me suis dit, mais il n'y a pas photo, il n'y a plus photo. Et c'est cette. J'ai envie de dire ce déterminisme là sur cette décision qui a été justement décisif, c'est que je me suis rendu compte et je me suis avoué ce qui faisait du sens à ce moment-là, ce qui me prenait aux tripes et ce qui ne me faisait pas de sens et ne me prenait pas aux tripes. Et donc je suis partie en Corée du Sud avec mes économies que j'avais bah, grâce à YouTube, etc. à l'époque. Et après ça, je me suis dit, je me laisse 1 an. Et pareil, c'était la première fois où je me lançais dans un truc sans être sûre à 100%. Parce que voilà, à partir jusqu'à un certain niveau, les revenus sont très incertains en fait quand vous êtes créateur. Surtout que je fais pas énormément de partenariats, enfin autant que je pourrais en faire que certains en font. Et no blame, genre trop bien pour eux. Juste moi, j'arrive pas à en faire autant. Mais du coup, genre c'était pour moi aussi un grand pari parce que c'était la première fois que je disais, genre là, pendant 1 an, je vais faire quelque chose où ça se trouve. Je te dis pendant 1 an, mais ça se trouve là dans 2 mois, je vais devoir me retrouver un taf parce que en fait, ce sera pas assez rentable. Et il faut quand même que j'assume ma vie. Le but, c'est pas que je vive au crochet de mes parents en décidant de tout arrêter et de faire la vie d'artiste. Non, pas du tout. Je prenais cette décision de manière éclairée. Et je croyais que ça allait me faire beaucoup d'angoisse, en fait, de choisir ce rythme de vie-là, de pas être sûr tous les mois de gagner assurément un salaire convenable, viable, etc. Parce qu'en plus j'ai toujours été quelqu'un, voilà, comme je l'ai expliqué dans un autre épisode, dans le contrôle de tous les aspects de ma vie, notamment financier. Genre j'ai jamais été à découvert, j'ai jamais été dans le rouge, j'ai toujours été très économe, très regardante. C'est pour ça que c'était un peu fou pour moi là de prendre une décision de partir, voilà, pendant 1 an et de me dire ça se trouve dans 3 mois ça s'effondre et je suis obligée de retomber sur mes pattes et de me trouver un taf alimentaire ou que sais-je parce que ça marchera pas. Et je m'attendais, voilà, comme je vous dis, à ce que ça m'apporte beaucoup d'angoisse, et pas du tout. Ça a été la décision la plus libératrice de ma vie, de dire, genre là, je sais pas ce que ça va donner, je sais honnêtement pas où je me dirige, mais il faut que je le fasse. Là, ne pas chercher de réponse dans l'instant, ne pas donner de réponse de ce que, enfin, de ce à quoi la société s'attend que ma vie ressemble, ça me fait du bien, ça me libère. Et c'est en ça, en fait, que je rejoins le titre de la vidéo, enfin du podcast du jour, pardon. Je sais pas quoi foutre de ma vie et c'est génial. C'est que ça m'a apporté une si grande liberté de me dire, t'as un cerveau qui marche, ton corps également. C'est quoi la pire des choses qui puissent t'arriver? Que tu trouves un taf alimentaire et que tu continues de créer à côté? Parce que ça veut pas dire si ça marche pas sur YouTube, genre ça voudrait juste dire ça ne marche pas pour que j'en vive. Et que je ne vive que de création, du coup. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je me trouve un taf à côté, qui me prenne pas trop de temps, mais qui me ramène de l'argent, pour continuer de créer à côté aussi. Je me dis, c'est ça le pire qui puisse t'arriver? C'est ça le truc qui te fait le plus peur au monde? Et c'est vrai que quand on se l'assume, je me suis dit, voilà, j'ai pas de crédit sur le dos, j'ai la chance d'habiter dans un appart qui coûte pas extrêmement cher par rapport à certaines personnes, certaines villes, etc. Voilà, je me suis dit. C'est quoi la pire situation? La pire situation, c'est de trouver un travail tout en sachant ce qui t'anime et voilà de ce que tu veux continuer de faire à côté. Bah, tu le feras. Et c'est en ça que, une fois que je l'ai assumé, ça m'a foutu une paix, mais royale. Et c'est donc en cette raison que j'aimerais, genre, faire une espèce de synthèse de tout cet épisode. Ça va vraiment être une partie qui est très très importante pour ceux et celles qui écouteraient encore. À la question pourquoi c'est pas évident de pas trouver de sens à sa vie quand on est jeune, de pas arriver à se dire forcément dès le début, mais c'est génial de pas savoir et de pas te mettre une pression monumentale de savoir. C'est parce qu'il y a 4 choses qui nous pèsent sur les épaules. Il y a le sentiment de différence dans ses projections, voilà, par rapport à celles que peuvent avoir les autres, qui vont plus correspondre aux schémas sociétaux, etc. C'est pas évident de se dire qu'on est différent, qu'on a plus, entre guillemets, à assumer et à taffer, à charbonner derrière, parce que le chemin qu'on veut prendre sort un peu des carcans. Il y a également une pression de décevoir. Donc ça, pareil, j'en ai déjà parlé au début, pression de décevoir la famille, l'entourage de manière générale, la société, nous-mêmes a fortiori, en prenant un chemin, encore une fois, qui sort des carcans stéréotypés. Il y a la peur de prendre un chemin et d'échouer aussi, qui nous empêche parfois d'être libres dans notre vie. Et j'ai entendu une citation récemment qui disait « Le truc que t'oublies, c'est que, au pire, si tu te gourdes de chemin, t'auras juste qu'à revenir en arrière pour reprendre la même vie qui, tu es sûr, fonctionne, même si elle te plaît pas. T'auras testé, tu pourras revenir à ton ancienne vie. Par contre, si tu ne tentes rien et que tu restes dans cette vie-là, je t'assure que tu passeras peut-être le restant de tes jours à te demander ce que ça aurait donné si t'avais osé. Dans le premier cas, tu as peut-être été déçu, mais tu sauras. Dans le deuxième, tu seras frustré d'être dans l'ignorance pour le restant de ta vie. » Et ça, pareil, quand je me le suis assumé, de me dire, je préfère faire, voilà, au minimum 1 an, 2 ans, ça dépend, ma vie d'artiste, et après revenir dans un autre carcan si vraiment c'est trop dur, si c'est trop d'angoisse, si c'est trop ceci, cela, plutôt que d'avoir foncé tête baissée dans le droit sans jamais me poser de questions, et après, voilà, faire un espèce de burn-out à 40 ans, de me dire, mais pourquoi j'ai jamais suivi mon instinct et ma passion? Parce que je vous jure que c'est un truc que j'ai tous les jours. À chaque fois que je vois un film, à chaque fois que je vois un livre, j'ai toujours ces idées de création. Donc, je sais en fait que je n'aurais pas pu juste rester dans une vie qui ne me correspondait pas parce que j'étais déjà bouffée par cette frustration et j'avais 22 ans quand j'ai fait le choix de lui laisser toute la place du monde. Donc, j'imagine pas si j'avais dû, à cause de la pression, nanani, nanana, la garder toute ma vie. J'aurais explosé à un moment ou à un autre, ça c'est certain. Et enfin, la quatrième raison qui nous empêche en fait d'assumer, de ne pas savoir et de parfois ne pas vouloir savoir quel est le sens de nos vies, ce que ça peut représenter, c'est, comme je vous disais, la fausse liberté que la société te laisse. C'est-à-dire que les gens vont toujours te dire que tu es libre de tout faire, mais en un sens, ils vont attendre ton premier plantage pour te tomber dessus. D'où d'ailleurs la peur obsessive de l'échec. Pourquoi on est autant obsédé par la peur d'échouer? C'est parce qu'on sait que derrière, il y a des gens qui vont nous juger, et des gens qui vont nous tomber dessus, il y a des gens qu'on peut décevoir. Et c'est en ce sens que j'essaie de normaliser, et qu'il y a plein de personnes qui le font, l'échec, parce que, en fait, ça fait partie du process. Vous ne pouvez pas dans la vie, il n'y a rien que vous ne pouvez faire dans la vie sans vous planter une fois, deux fois, trois fois, mille fois. C'est pas possible. Il n'y a rien que vous puissiez faire parfaitement du premier coup. Rien du tout. Pareil, je vous renvoie à l'épisode du podcast sur « Je fais rien parce que je suis une grosse merguez » qui avait assez bien expliqué ce point-là. Bon, du coup, en conclusion, pourquoi je m'en fiche de pas avoir les réponses à tout? Pourquoi je suis aussi délibérément un instinct qui ne me fait pas réfléchir tous les jours au sens de la vie comme la société voudrait que je le fasse? C'est parce que ça me fout la paix à moi-même, mais une vraie paix intérieure. Je préfère désormais ne pas chercher à comprendre trop plutôt que d'essayer de sortir des réponses aux gens qui, de toute façon, ne leur conviendront pas. Prenez votre temps, laissez-vous du temps, soyez indulgent et bienveillant envers vous-même, s'il vous plaît. La vie est vraiment assez dégueulasse, les gens malveillants, pas tous, on est bien d'accord, et la vie est belle sur certains côtés, sur beaucoup de côtés, mais donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, donnez-vous de la patience, donnez-vous de l'indulgence, donnez-vous de la bienveillance, que vous ayez, je sais pas moi, 15, 20, 30, 40, 50 ans, plus il n'est jamais trop tard. Il n'y a personne qui devrait vous dire qu'il est trop tard. Vous n'avez pas d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Je ne connais certes pas tous et toutes votre situation. Bien évidemment, j'imagine qu'il y a des personnes, il y a des enjeux bien plus compliqués à dépasser que moi j'ai pu en avoir. Mais profondément, au-delà de tous ces aspects-là, que, voilà, qui sont factuels, qui sont là, sachez que personne n'a le droit et ne peut, surtout vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le droit d'essayer, que vous n'avez pas le droit de vous planter, que vous n'avez pas le droit de réussir dans un chemin que tout le monde condamne pour vous, en fait, à essayer d'y aller. Sur ces belles paroles, je vous laisse méditer sur tout ça. Revenir vers moi par DM si vous avez des questions, des interrogations, des affirmations. N'hésitez pas à répondre à la question, d'ailleurs, sur Spotify sous l'épisode. J'en affiche des réponses que je trouve très pertinentes. Et au sondage, voilà. N'hésitez pas non plus à mettre des petites notes, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve très vite, je l'espère. Bye bye !